après avoir appris les troubles qui s'abattent sur Thèbes, le rationaliste et moraliste Panthée est revenu au palais. Hors de lui, il a crié à tue-tête sa colère. Et sa fureur a encore redoublé quand il a remarqué que son grand-père Cadmos et le devin Tirésias, les deux hommes les plus sages de la cité, participaient eux aussi au scandaleux débordement, et même plus, qu'ils y avaient leur part de responsabilité. Suite à la tentative du cœur de guider le roi sur le bon chemin, de lui faire reconnaître et intégrer l'incontournable Dionysos dans la cité, voilà que Tirésias prend à son tour la parole. En bon prophète qu'il est, Tirésias sait trouver les mots qui conviennent. Il commence par énoncer une généralité. Pour un homme sage, sage au sens où il est privilégié, inspiré par les dieux, il n'est pas difficile de bien choisir ses sujets de conversation, de trouver de beaux thèmes de parole, et par suite de bien parler, de s'exprimer de manière claire et convaincante. Mais Panthée n'est pas doué d'un tel souffle divin. Il a certes une langue agile, il est certes habile et parle bien, ses discours paraissent sensés, semblent reposer sur une certaine sagesse pratique. Mais il n'est nullement sage. Il est au contraire dénué de bon sens. Provenant de ses seules idées, ses petites idées à lui, ses paroles manquent en effet de fond, de cohérence et de pertinence. Elles ne sont que des élucubrations creuses, à vrai dire sans lien avec la réalité de la vie. Aussi, Panthée fait-il partie des mauvais citoyens, ceux dont le manque de raison, le manque d'entente de la grande raison ou musique de la vie, rend leur audace, leur puissance et leurs belles paroles non seulement vaines, mais encore dangereuses pour la bonne santé et bonne constitution de la cité. Suite à ces considérations générales, Tirésias en vient à cibler davantage son propos. Il reprend les accusations de Panthée contre le nouveau dieu pour les démonter, quasi argument après argument. Il confirme d'abord le caractère divin de Dionysos, que le roi refuse et dont il se moque. Dionysos est bel et bien un très grand dieu, et même plus, un dieu d'une importance insoupçonnée pour toute la Grèce, d'une importance telle qu'elle dépasse la compréhension du prophète lui-même. Et Tirésias de souligner encore que par rapport au vieux devin qu'il est, Panthée n'est qu'un jeunet sans expérience et donc dénué tant de savoir que de sagesse. Bien qu'il soit le roi de Thèbes, il a encore de nombreuses choses à apprendre. Notamment qu'il y a deux principes, deux dieux fondamentaux qui marquent la vie humaine. D'une part, il y a Déméter, ou Gaïa, la terre, noms qui reviennent aux mêmes. Elle a pour caractéristique de nourrir les êtres mortels d'aliments secs. Elle leur apprend à cultiver le sol et faire croître des céréales indispensables à leur vie. Et d'autre part, il y a justement le fils de Sémélé, Dionysos, qui n'est autre que le pendant de Déméter. Il est quant à lui à l'origine non du sec, mais de l'humide, tirant des grappes de raisin la mystérieuse boisson qu'est le vin, et apprenant aux hommes la manière de la produire. Mystérieuse boisson de la plus haute importance. Quand les misérables mortels, qui sont en proie au malheur, à la tristesse, au chagrin et finalement à la mort, quand les misérables mortels boivent le liquide de la vigne, les voilà soudain détournés, libérés de leurs souffrances. Très vite, ils sombrent dans un sommeil réparateur et oublient leurs maux quotidiens. Tirésias l'affirme haut et fort, il n'y a pas d'autre remède aux peines humaines. Dionysos est bel et bien indispensable à la vie tant mortelle qu'immortelle, puisque, en se glissant lui-même dans le vin versé en guise de libation aux autres dieux, il réjouit également ces derniers et gratifie les hommes de plaisir, de bien dans leur monde de souffrance. Tirésias en vient ensuite au mythe de la naissance de Dionysos. Lorsque sa mère Sémélé est foudroyée par la toute-puissance de son divin amant, le petit Dionysos était encore en pleine gestation. Mais il se trouve sauvé par son père Zeus et cousu dans sa cuisse pour terminer à l'abri son développement. D'après Panthée, ce ne sont bien sûr là que des racontars. Selon lui, Sémélé a simplement été puni de s'être vanté à tort d'avoir eu une relation avec Zeus, entraînant par là dans la mort le dit Dionysos, à vrai dire vulgaire embryon mortel. Mais Panthée se trompe en cela comme en tout. Privilégié qu'il est par les dieux, Tirédias sait exactement comment cela s'est passé. Contrairement à ce que croit le roi, Dionysos est bien le fils de Zeus. Il a bien été sauvé du feu de la foudre qui a consumé sa mère, et finalement conduit par son père sur l'Olympe. Là-haut, l'épouse de Zeus, la divine Héra, jalouse du nouveau petit dieu, et pour cause, il est le symbole de la tromperie de son mari, la divine Héra a voulu le jeter hors du ciel. Mais Zeus ne l'a pas laissé faire et a machiné contre elle un stratagème digne du dieu rusé qu'il est. Il a arraché un morceau d'éther à l'enveloppe de la terre et l'a donné en otage à Héra en lieu et place du petit Dionysos. Et c'est contre ce leurre, contre ce faux Dionysos que la déesse a alors soulagé sa colère. Puis, avec le temps, les hommes, dont les oreilles ne sont pas toujours enclines à entendre les hauts faits et signes divins, les hommes ont rapproché les mots grecs « homéros », « otage » et « méros », « cuisse ». Ils se sont mis à raconter que le petit Dionysos avait été cousu dans la cuisse de Zeus parce qu'il avait été donné en otage à la colère d'Héra. Rapprochements et récits confus qui ont fini par obscurcir et discréditer ce qui s'était réellement passé, au point que tout se mélange dans les mémoires, également dans celle de Panthée.